L'histoire à contre-courant, une émission proposée par Anne Bernay.
Bonjour chers auditeurs, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Philippe Delorme, que beaucoup d'entre vous connaissent certainement. Bonjour Philippe Delorme.
Oui, bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire des monarchies, journaliste. Vous publiez aujourd'hui « Les rois éphémères » au CERF, un livre de 285 pages vendu 20 euros. Philippe Delorme, en publiant « Les rois éphémères », qui est une série de brefs portraits de souverains au règne extrêmement court, moins d'un an, et au dénouement parfois tragique, vous choisissez un angle d'approche finalement paradoxal. À côté de ces figures de princes qui restent malgré tout dans l'histoire, vous dressez, Philippe Delorme, une extraordinaire série de portraits d'aventuriers qui se sont octroyés des couronnes, plus ou moins de fantaisie. Tout le monde pense d'abord à Antoine de Tounens, roi de Patagonie d'Araucanie, parce que Jean Raspail lui a donné une popularité particulière, mais il en a bien d'autres. Marie, roi des Sédangues, Jacques le Baudy, empereur du Sahara, Boris Ier, roi d'Andorre, Antoine Fornelli, roi de Tana. J'avoue que je suis restée stupéfaite.
Oui, alors il y a des personnages plus ou moins sérieux, je dirais fantaisistes, hein, là-dedans. Tounens, qui essaye à l'époque de Napoléon III de tailler un empire français en Amérique du Sud, est sans doute un des plus sérieux, parce que finalement sa tentative, même si lui-même était un personnage assez fantasque, hein, c'était un avoué périgourdin qui prétendait descendre des anciens chefs gaulois de la région. Enfin, donc, c'est un personnage qui avait un peu des ambitions démesurées, mais l'idée d'aller dans cette région d'Amérique du Sud qui n'avait jamais été soumise aux Espagnols et qui n'était pas vraiment soumise ni au Chili ni à l'Argentine, hein, donc l'Araucanie, n'était pas une idée complètement stupide. Et d'ailleurs, il va réussir à fédérer pendant quelques mois un certain nombre de tribus araucaniennes qui vont le reconnaître comme souverain. Donc, s'il avait reçu le soutien de Napoléon III, on peut imaginer que son entreprise aurait très bien pu aboutir à quelque chose de pérenne. À côté de ça, Napoléon III va s'en lancer quelques années plus tard dans l'affaire du Mexique, qui était finalement beaucoup plus catastrophique. Là, il y aurait peut-être eu la possibilité de se tailler un empire français dans le sud de l'Amérique avec Tounens. Bon, les choses ne se sont pas faites, il est finalement mort tristement dans la pauvreté, dans la misère en 1878, de retour en France, malade, etc. Mais ce qui est amusant, c'est, vous avez parlé de Raspail, mais c'est que cette idée du royaume d'Araucanie va rester un petit peu comme un rêve dans l'histoire de France, puisque un certain nombre de personnages au cours du 19e et du 20e siècle vont reprendre cette tradition un peu folklorique de l'Araucanie, Patagonie. Il y a encore aujourd'hui un prince d'Araucanie, d'ailleurs qui a un rôle assez positif auprès des populations locales, puisqu'il les relaye auprès de l'ONU, de l'UNESCO, etc., parce que ce sont des populations qui sont toujours assez malheureuses, ce sont des populations autochtones qui ont des difficultés avec les gouvernements chiliens et argentins. Donc, voilà, cette tradition araucanienne continue aujourd'hui, et c'est vrai qu'elle a été illustrée longtemps par Jean Raspail, qui s'était autoproclamé, je crois, vice-consul de Patagonie. Alors c'est un peu un royaume de rêve, mais il y a un côté aventurier qui est très très beau dans cette histoire de l'Araucanie.
À côté de cela, nous avons donc ce mari, roi des Sédangues, qui part un peu dans le même état d'esprit. Il s'agit de conquérir des terres à la France.
Alors le roi des Sédangues, c'est moins sérieux. C'était quand même beaucoup plus un escroc, à bien des égards, qui va essayer de coloniser une partie du Vietnam, entre le Vietnam et le Cambodge actuel et le Laos, là, des régions de montagne qui étaient encore peu connues à l'époque, où il y avait simplement quelques missionnaires catholiques qui étaient implantés. Mais bon, son affaire est quand même beaucoup moins sérieuse que celle d'Aurélie Antoine. Il revient très vite en France. Mais c'est un peu comme l'histoire d'Aurélie, d'ailleurs. Lorsqu'ils vont revenir en France, ils vont s'installer à Paris, et là, ils vont devenir un petit peu la coqueluche des cabarets, des chansonniers de l'époque, qui s'amuse beaucoup de ces histoires-là. Hein. Donc, le roi des Sédangues va avoir beaucoup de succès au Chat Noir, enfin, ou dans les différents cabarets de Pigalle ou de Montmartre à l'époque.
À côté de cela, nous avons des vrais escrocs. Cet empereur du Sahara qui abandonne les malheureux matelots qu'il a entraînés dans l'affaire.
Oui, alors lui, c'est plus un mythomane, un mégalomane mythomane qu'un escroc, parce que c'était un homme qui avait beaucoup d'argent, qui était un milliardaire. C'était l'héritier Le Baudy, hein. donc l'héritier des sucres Le Baudy, hein, des raffineries, donc il était très très riche, et cet homme très riche décide d'aller se tailler un royaume au Sahara. Alors il y a un fonds intelligent, parce qu'il se dit le Sahara a des ressources minières, on les exploitera par la suite, donc en s'installant sur la côte du Sahara, on pourrait très bien exploiter ses ressources. Alors ça, c'est le fond intelligent et le fond, je dirais, raisonnable de son affaire. Mais cette affaire va, bien sûr, tomber très vite dans la tragicomédie, hein, puisqu'il se proclame Jacques Ier empereur du Sahara. Il débarque sur une côte déserte avec une poignée de marins qu'il va abandonner à leur sort. Les marins vont être faits prisonniers par des tribus nomades qui demanderont son pour les libérer. Enfin, bon, il faut finalement que la France envoie une canonnière sur place pour les rapatrier. Enfin, finalement, l'affaire finit mal. Le Bodhi sombre de plus en plus dans la mégalomanie et dans la folie. Il va finir par s'installer aux États-Unis où là, il va même pas se suicider. Il va être assassiné par son épouse au moment où il voulait commettre un viol sur leur fille. Enfin, bon, ça se termine un peu dans quelque chose d'assez glauque, mais c'était essentiellement quelqu'un qui était malade mental, je crois, hein, ce Jacques Le Bodhi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça a été très repris par la presse, on a fait des dessins d'humour, des caricatures. C'était pas béni pour les caricaturistes, bien évidemment.
À quoi tient cette fascination pour les monarchies? Ces aventuriers ne vont jamais se proclamer président de la République d'Araucanie, du Sahara ou de je ne sais quoi.
Généralement non, mais regardez, finalement, c'est parce que le rêve... Demandez à un enfant à l'école primaire... Une histoire, un conte de fées, c'est toujours un prince et une princesse, c'est jamais un président de la République qui va marier son fils ou sa fille à un premier ministre. Hein. Donc c'est vrai que cette idée de prince, de princesse, de roi, c'est quelque chose qui échauffe les imaginations et qui fait rêver. Donc on comprend que ces aventuriers ou ces mythomanes vont plutôt utiliser la royauté pour chevaucher leur chimère.
Est-ce que nous n'en revenons pas à cette notion de continuité qui manque au système républicain?
Oui, puis de continuité, de symbole, parce que le symbole, ça veut dire ce qui réunit. Hein, donc évidemment, c'est un pouvoir symbolique, le régime monarchique. Et puis il y a ce côté, ce faste qui entoure, ce côté un peu, ce côté mystérieux qui manque à la République. Quand on voit un défilé avec la reine d'Angleterre ou une manifestation au Japon, même impériale, etc., c'est quelque chose qui nous rattache à la longue histoire, ce que ne fera jamais un président de la République élu pour 4 ans, ou 7 ans, ou 5 ans.
Il y a une monarchie que nous avons tendance à oublier, Philippe Delorme, c'est le Vatican, le pape et roi. Alors oui, vous évoquez dans la galerie de portraits de ces rois éphémères, le plus célèbre de ces papes éphémères, c'est le pauvre Jean-Paul Ier.
Oui, alors j'ai pensé qu'il était convenable de placer un pape, puisque le pape est souverain pontife. Depuis les accords de Latran, en plus, il a récupéré un véritable territoire, donc il est souverain d'un territoire réel au cœur de Rome, la cité du Vatican, qui a un statut d'État tout à fait officiel. Donc effectivement, Jean-Paul Ier va régner le pape des Mediatate Lunae. Vous savez, dans la fameuse prophétie de Saint Malachi, sa devise était la moitié d'une lune. Hein, parce qu'alors on a dit que c'est parce qu'il avait régné juste à l'époque d'une lunaison. Et puis en plus, il venait de Belluno, en Italie. Donc il y a plusieurs explications. Enfin, il a régné 33 jours, c'est-à-dire le temps d'une lunaison. Hein, donc... Vraiment, règne très rapide.
On s'en souvient, les gens de notre âge s'en souviennent très bien.
Exactement. Son élection avait quand même soulevé un certain enthousiasme, parce que c'était un personnage qui changeait par sa manière d'être. C'était un personnage d'une grande simplicité, très souriant.
Comparé à Paul VI, qui était un peu sec, il était très souriant, il était lumineux.
Beaucoup plus simple, beaucoup plus proche des gens, etc., lumineux. Et on imaginait que ça allait être l'ouverture d'une nouvelle période pour l'histoire de la papauté. Et puis, au bout de 33 jours, effectivement, il meurt brusquement, alors probablement d'une crise cardiaque. Alors, on a échafaudé tout un tas de légendes et d'idées de complot autour de cela. C'est probablement faux. Hein. Je pense qu'il avait déjà des problèmes cardiaques. Son médecin traitant était absent à ce moment-là. Le fait d'avoir été nommé comme cela, élu pape, a été quand même un stress terrible pour lui. Il a été obligé de beaucoup travailler. Il a été mis en face d'une responsabilité qui a été sans doute, qui a déclenché une nouvelle crise cardiaque. Et bon, il est mort tout à fait naturellement. On a pu se poser des questions parce que on n'a pas voulu faire d'autopsie. C'était pas la tradition chez les papes de faire une autopsie. Donc, on n'a pas pu savoir exactement ce qui s'était passé. Et puis aussi parce qu'au départ, on n'a pas voulu expliquer que c'était sa servante, enfin, qui était une religieuse à son service, qui avait découvert le corps, parce qu'à l'époque, on considérait que c'était peut-être
une femme
un
dans
peu
les
choquant
appartements du
qu'une
pape.
Femme voit le pape dans son lit, etc. Donc on a raconté que c'était son secrétaire. Enfin, donc, Ce genre de petits détails a fait qu'on a pu beaucoup broder autour de cette mort. Mais bon, hélas, c'est une mort
naturelle.
Mais la Providence veillait, puisque ça a permis l'élection peut-être du plus grand pape du XXe siècle, voire d'un des plus grands papes de l'histoire de la papauté et de la chrétienté, qui était Jean-Paul II, hein, qui est arrivé à ce moment-là. Donc finalement, d'un mal est né un plus grand bien, peut-être.
Philippe Delorme, cette émission touche malheureusement à sa fin. C'est toujours trop court quand les invités sont passionnants. Je rappelle que vous venez de publier aux éditions du CERF « Les rois éphémères », dont nous venons de parler, et l'an dernier, le Dictionnaire insolite des dynasties du monde chez Via Romana. Deux ouvrages que je recommande parce qu'ils sont absolument passionnants. Merci encore, Philippe Delorme.
Merci beaucoup. À très bientôt.
À très bientôt. Au revoir.